C'est bon, le micro, là, pour ton invitation et cet accueil donc à Poitiers. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça fait 5 ans, donc je suis venue presque 5 ans ici parler déjà des singes, parler déjà de Boutan, ce scientifique qui va occuper une partie importante de mon exposé. Donc c'est très agréable pour moi de revenir et je suis vraiment pour cet accueil et cette invitation chaleureuse. Donc c'est vrai que parler en 2009 de Darwin, donc c'est une année clé puisque c'est le bicentenaire de la naissance de Darwin et le 150e anniversaire de la publication de l'origine des espèces. Donc c'est sûr que cette parution, donc en 1859, de l'origine des espèces a marqué donc une révolution conceptuelle dans les sciences de la nature, mais aussi dans les sciences de l'esprit, puisqu'elle pose en fait le problème, elle redéfinit cette frontière qui sépare l'homme de l'animal. Mais c'est particulièrement dans un autre ouvrage qui s'appelle La filiation de l'homme et la question de la sélection sexuelle, un ouvrage qui date de 1871, que Darwin met en évidence donc ses ressemblances anatomiques, physiologiques, pour prouver donc l'origine animale de l'homme. Et en fait, il va laisser le soin à un de ses disciples, Georges Romanès, le soin de prendre en charge la partie psychologie animale, et en particulier donc cette question de l'évolution de l'esprit. Donc Darwin aura laissé un peu de côté, hein, ou tout au moins donc aura légué cette question à Georges Romanès, qui je reviendrai dans l'exposé, donc on aura des positions assez marquées sur cette question. Donc, bien sûr, je commence avec cette parution, mais Romanès, Darwin, donc ce disciple Darwin n'est pas le premier à chercher à savoir donc si l'on peut prêter l'intelligence aux animaux, hein, cette question de l'intelligence, avant d'être peut-être un problème scientifique avec Darwin et Romanès, a été un problème philosophique. Et si on remonte un peu dans l'histoire, eh bien on peut notamment, là en se tournant vers des sources françaises, donc rappeler justement des positions antinomiques entre par exemple Montaigne, qui dans l'Apologie de Raymond Sebond donc atteste que l'homme n'a pas le monopole de l'intelligence, mais qu'il partage avec les autres animaux, selon les ordres et les degrés différents, une seule et même loi de la nature, donc qu'il existe une intelligence qui prête l'âme aux animaux, hein, il insiste une intelligence animale. Alors que Descartes, hein, comme vous le savez, je pense, lui ne voit que dans les bêtes des brutes, des machines qui sont plus ou moins bruyantes, qui parlent mais sans avoir conscience du langage. Donc cette conception cartésienne de l'animal-machine, elle va être dominante, hein, pendant longtemps. Donc on indique que l'intelligence, c'est ce qui caractérise l'espèce humaine, tandis que les animaux sont vus donc plutôt comme des êtres vivants, donc gouvernés par leurs instincts. Et à cette question donc approchée par des philosophes, eh bien il y a cette question morale aussi et qu'on prête, donc on questionne l'humanité, l'animalité, et on pose une question morale parallèlement donc à cette question de l'esprit animal. Alors donc moi je précise, hein, je reviens donc sur ma position. Donc je suis dans les post-darwiniennes et donc je m'intéresse à cette question de l'intelligence animale dans ce cadre post-darwinien en France. Au début donc, du XXe siècle, donc, sous la Troisième République, on va voir si c'est important, et donc avec en comparant deux travaux, hein, ceux donc, d'un zoologiste français, Louis Boutan, et ceux de deux psychologues français aussi, Paul Guillaume et Ignace Meyerson. Donc c'est dans les années 1910 pour Louis Boutan, et Paul Guillaume et Ignace Meyerson, c'est à la fin des années 20. Donc, deux cas d'études, hein, trois points en fait que je vais aborder par rapport aux travaux de ces scientifiques. Donc cette question de l'évolution de l'esprit dans ce contexte post-darwinien, montrer en particulier comment cette question donc se situe en France dans un débat qui oppose les héritiers de Lamarck, qui se sentent menacés par cette prééminence de l'œuvre de Darwin, donc des tensions dans la communauté scientifique française et des débats autour de ces positions darwiniennes et lamarckiennes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième concernera plus spécifiquement l'étude des pratiques scientifiques, des expérimentations qui sont faites avec ces animaux, avec ces singes, donc un gibbon, on le verra dans le cas de Louis Boutan, et des chimpanzés dans le cas Guillaume Meyerson. Donc comment, dans cette psychologie aussi qui renaît au début du XXe siècle, on va, ces scientifiques vont affirmer qu'ils font une étude expérimentale l'esprit animal et posent la question aussi de cette preuve expérimentale qu'ils apportent à cette étude de l'intelligence animale. Donc je mettrai en évidence donc des critères d'objectivité qu'ils avancent pour justement légitimer leurs approches et pour montrer comment ces études sont scientifiques car elles répondent aux prérogatives du laboratoire, donc cette épistémologie du laboratoire, donc à savoir des critères de contrôle, de répétition et de quantification, et que tout ça balaye en fait l'approche naturaliste qui, elle, reposait sur des observations de terrain. Ensuite, ça sera mon troisième point, donc je montrerai comment cette question justement de l'épistémologie du laboratoire, donc cette prédominance du laboratoire sur le terrain, va aller jusqu'à modifier en fait la conception du naturel de ces scientifiques. Donc ils travaillent dans des laboratoires, dans des lieux de semi-captivité ou de captivité, et pourtant ils vont continuer à prétendre qu'ils observent des comportements naturels et qu'ils étudient donc ils construisent en fait la naturalité du comportement animal. Donc je commence donc par ce premier personnage de Louis Boutan, donc ce qui va s'intéresser donc à la question de l'esprit animal à travers celle tout d'abord de la question du langage et de la capacité la preuve que le langage en fait non le fait que le langage soit la preuve d'une pensée articulée, d'une pensée abstraite. Donc Boutan, ce zoologiste français, donc s'inscrit dans cette tradition de cette étude donc du langage, dans cette tradition aussi qu'on peut ramener à la tradition des enfants sauvages à la fin du XVIIIe siècle. Vous connaissez certainement les travaux de Jean-Marc Itard, qui a étudié donc Victor, cet enfant sauvage de l'Aveyron, et qui a montré donc à la fin du XVIIIe, début du XXe siècle, que la faculté du langage et celle du raisonnement sont extrêmement intriquées l'une dans l'autre, que en fait, sans le langage, les efforts pour formuler des abstractions sont entravés, qu'on ne peut pas donc atteindre un niveau d'abstraction. Donc, quand Louis Boutan, donc ce biologiste naturaliste français, donc commence ses expériences pour tester, lui, non pas les capacités d'un enfant sauvage, mais d'un gibbon donc capturé en Asie, il est dans cette problématique de comprendre donc ce lien entre le fait qu'on est doué d'un langage et qu'on puisse donc abstraire. Donc il est dans cette tradition des enfants sauvages, si je puis dire, mais sauf que lui, il inverse en fait les conditions d'expérience. Au lieu donc de placer un enfant dans un environnement sauvage, comme ce Victor de l'Aveyron, il va mettre son gibbon, ce gibbon qui a été capturé en Asie et qu'il rapporte en métropole, dans un environnement humain. Donc ça, c'est un premier point. Et donc je disais tout à l'heure aussi que ces études, elles se situent dans ce débat autour donc de la question du langage animal, de l'esprit animal, et que ces questions donc sont extrêmement de plus en plus aiguës, de plus en plus pressantes sur les études scientifiques, puisqu'elles sont dues donc à la montée de l'évolutionnisme donc à la fin du 19e siècle. Donc dans un premier temps, Boutan va penser que justement le langage et la raison forment une barrière infranchissable entre les humains et les autres animaux, et que donc le langage est soit émotionnel pour les animaux et qu'il est rationnel pour l'homme. Donc il va entreprendre des expérimentations sur le chant du gibbon, puisque le gibbon en fait est un animal qui possède un sac vocal qu'on ne voit pas très bien sur ces photos, mais qui se gonfle et qui est capable donc de chanter. Et il va donc dans un premier temps étudier donc le chant de ce gibbon à joues blanches, comme vous voyez là des spécimens contemporains, si je puis dire, donc qu'il a donc rapporté d'Asie. Donc au départ, il montre à Boutan va montrer, va chercher à montrer que le langage humain donc résiste à toute explication évolutionniste et qu'il est donc le propre de l'homme. Et pourtant, donc partant de cette conception assez forte quant à donc la cette particularité, cette spécificité de l'homme, eh bien il va finir par admettre l'idée, à avancer l'idée que les singes eh bien puissent articuler des idées et donc raisonner. Donc il va passer de l'idée, cette idée cartésienne, hein, que les animaux seraient simplement des machines qui font du bruit quand elles chantent, à la notion qu'ils puissent être dotés donc, d'un langage rudimentaire. Donc je vais montrer comment en fait, ce temps a pu évoluer dans ses travaux, hein, comment il a pu aussi être influencé donc, par par des aspects socioculturels très liés à la Troisième République française, la Troisième République donc, qui commence en France en 1870 et qui impose des nouveaux modèles, notamment d'éducation. Et je montrerai donc aussi comment, par une étude comparée en fait, entre enfants et gibbons, eh bien, il va donc progressivement passer de l'idée que les animaux, donc, ce gibbon donc puisse être doté d'un raisonnement rudimentaire. Donc je reviens un petit peu sur ce Boutan, hein, ce scientifique. Donc il est tout à fait dans le profil des scientifiques de la Troisième République, hein. Il fait des études, il est dans une famille aisée, son père est professeur au lycée Saint-Louis, il passe son baccalauréat, il ne fait pas l'école normale, mais obtient donc une thèse à l'Université des sciences, Faculté des sciences de Paris, une thèse donc qui porte sur l'embryologie d'une fissurelle, un mollusque marin, donc des travaux d'abord d'embryologie qui s'inscrivent dans ce développement très fort de la zoologie expérimentale, qui est un point fort donc de la biologie française à la fin du XIXe siècle. Donc il a cette carrière scientifique toute tracée, toute droite, mais Boutan est, comme je le dis, un zoologiste un peu hétérodoxe, c'est-à-dire qu'il a des passions scientifiques, mais qui l'éloignent parfois d'un rythme universitaire, d'une carrière universitaire rectiligne. Donc il est passionné de voyage, et de la mer en particulier, et aussi donc il sera l'inventeur, hein, d'une caméra sous-marine comme celle que vous voyez sur cette illustration. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur internet des renseignements sur ce scientifique, eh bien c'est plutôt on le désigne davantage comme un inventeur que comme quelqu'un qui aurait étudié donc la psychologie des singes. Donc il fait de nombreuses expéditions qui assouvissent donc son goût pour la mer, pour les études donc de mollusques marins et sa passion des voyages. Et il est toujours, par rapport au milieu académique français, donc en partance, hein, et c'est justement donc lors d'un séjour d'une longue mission donc en Indochine qu'il va donc acquérir, hein, ce jeune gibbon. Donc c'est un gibbon femelle, hein, qu'il va dénommer du nom de Pépé, donc cette Hylobates leucogenis, donc qui est un gibbon à joue blanche, qui est donc ce singe, petit singe très agile, arboricole, comme vous avez pu le voir, et qui est capable donc d'émettre des ululements, et donc qui est un objet en Asie du Sud-Est extrêmement, un objet d'attraction à part dans ces forêts d'Asie du Sud-Est où il prolifère. Donc, Boutan se voit offrir cet animal et il va donc le ramener d'abord dans son domicile à Hanoï, et c'est là qu'il va donc d'abord chercher à étudier donc les vocalisations de cet animal. Donc il cherche à comprendre, hein, il enregistre les cris, le son émis par cet animal, il demande à ses domestiques de ne jamais imiter le cri du gibbon en sa présence. Ce qu'il veut comprendre, c'est si ce langage donc est inné et s'il a une signification, donc si ce langage est inné et s'il est fonctionnel, hein, si le gibbon parle en quelque sorte, ou s'il ne fait que répéter un registre de son acquis à la naissance. Alors, donc, cette question du langage, qui est liée aussi à la question donc, de l'intelligence, hein, elle se situe donc dans les disons, d'une problématique donc darwinienne, hein, puisque donc comme je le disais tout à l'heure, hein, ce personnage donc de Romanes qui va être chargé donc de la partie de la psychologie animale, eh bien va affirmer hein, qu'il n'y a pas donc cette affirmation darwinienne que Darwin lui pose par rapport à la morphologie, à la physiologie, eh bien lui il la décale vers la psychologie, donc il affirme que donc les animaux, l'homme et l'animal sont différents, non pas par nature mais par degré, et que pour lui même il va jusqu'à dire hein, d'une manière assez forte hein, qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'acte de raison d'un crabe et celui d'un homme, donc juste une histoire de degré, donc il se fait vraiment il applique cette loi darwinienne hein, de manière très stricte. Alors en cet ouvrage, donc Mental Evolution in Animals, a été traduit en France par le zoologiste Edmond Perrier, et qui, lui, donc, dans la lignée donc, de Romanes, eh bien, va affirmer que effectivement beaucoup d'animaux donc, retiennent, abstraient, combinent leurs sensations, leurs souvenirs et leurs idées, acquièrent un véritable savoir, de la prévoyance, et agissent fréquemment, nous dit-il, de manière qu'on ne puisse douter qu'ils ont parfaitement saisi les relations des causes avec leurs effets, donc ils se montrent intelligents. Alors, ça, c'est une partie une position par donc une personnalité importante de la communauté scientifique française, un néo-lamarckien d'ailleurs, mais qui, sur ce point-là, donc emboîte le pas à Georges Romanes, le disciple de Darwin. Donc, par opposition, on a un point de vue beaucoup plus cartésien, là. Donc, c'est Yves Delage, un autre biologiste important de cette communauté scientifique française, le mentor, d'ailleurs, de Bouton, qui, lui, donc, affirme que, eh bien, faire dépendre, donc, comme vous pouvez le lire, les actes de l'animal d'opération intellectuelle, semblables à celles de l'homme, n'est pas simplement une exagération, c'est une erreur radicale. Car la pensée de l'animal ne diffère pas de celle de l'homme seulement de façon qualitative, donc comme celle d'un illettré par rapport à celle d'un philosophe, elle en diffère qualitativement, elle est d'une autre nature, et c'est là un point essentiel, dit-il, qui mérite d'être apprécié. Donc vraiment deux positions antinomiques, et on voit derrière de l'âge donc la référence hein, implicite à des positions philosophiques très fortes. Je citais Descartes tout à l'heure, on peut le voir aussi dans dans les propos de Lage, d'ailleurs, qui va citer hein, Descartes, et nous dit-il, malgré l'exagération manifeste de sa formule, donc l'animal-machine, était plus proche de la vérité que ne sont nos contemporains. Donc il y a vraiment cette rhétorique hein, qui agit dans cette communauté française. On va saisir donc Descartes, hein, le XVIIe siècle, pour justifier d'une erreur hein, de position darwinienne, enfin, romanésienne en tous les cas, par rapport à cette question donc de l'animal et de l'intelligence animale. Donc une polarisation très forte, hein, Darwin versus Descartes, qui peut sembler exagérée et certainement aussi l'objet d'une rhétorique. Hein, il faut penser que en 1911, puisqu'on est dans les dates anniversaires, eh bien on est proche de 1909. Alors 1909, donc c'est le centenaire de la naissance de Darwin. On peut refaire toute la même chose moins 100 ans. Mais aussi le centenaire de la publication donc, de la philosophie zoologique de Lamarck et donc le 50e anniversaire de l'origine des espèces de Darwin. Donc c'est une date, 1909, qui a provoqué beaucoup de manifestations où justement les Anglais honoraient la mémoire de Darwin à Cambridge, et les Français, puisqu'il y a cette tension entre néo-lamarckiens et néo-darwiniens en France, eh bien, se sont dit, nous aussi, on va avoir notre penseur évolutionniste, notre penseur transformiste, ça serait plus juste, en Lamarck, et donc vont ériger une statue que vous pouvez voir au Muséum d'Histoire Naturelle, hein, dans le Jardin des Plantes, cette statue de Lamarck, et donc une consécration de la marque contre Darwin, hein, enfin ou tout au moins mise en balance des deux personnalités pour faire le pendant donc à cette darwinisme un peu omniprésent. Donc là, dans les propos de Delage, hein, Delage qui d'ailleurs participe à cette cérémonie en 1909, hein, on est 2 ans plus tard, donc il y a cette volonté hein, de dégratigner un peu cette prééminence donc, du darwinisme. Et il cite Descartes, mais c'est aussi pour dire nous avons en France des penseurs, Descartes et Lamarck. Donc cette scission, cette opposition, elle est dans les discours, mais elle dénote une rhétorique forte. Alors cependant, Boutan qui est donc dans les années 1913, il est de retour d'Indochine, par rapport à la communauté française, il doit se situer de manière diplomatique. Donc au départ, il semble emboîter hein, le pas à Delage, hein, son mentor. Et il est d'accord pour dire que, justement, les singes, eh bien, ne peuvent, nous dit-il, hein, formuler des mots. Ils ont un pseudo-langage, hein, un langage simplement inné, émotionnel. Donc, ils rabaissent l'animal à un être vivant, donc doué d'un langage simplement inné ou émotionnel, mais non fonctionnel. Donc, il accentue, dans un premier temps, hein, ce fossé donc, entre l'homme et l'animal sur la question du langage. Mais il va changer d'avis, donc, justement, il est mis en contact dans ces forêts d'asiatiques avec un merle buffle, donc un oiseau qui parle. Et il va passer de l'idée hein, d'un langage que certains animaux puissent être donc doué d'un langage rudimentaire. Donc, il passe de l'idée hein, d'un pseudo-langage inné émotionnel à un langage rudimentaire. Donc, une définition beaucoup plus positive hein, de ces animaux, de certains animaux. Donc, et peut-être, donc, il semble concéder hein, l'idée que le langage humain n'échapperait pas donc, à une explication évolutionniste. On pourrait prêter une raison rudimentaire aux animaux. Alors, cette idée va être accentuée, excusez-moi, je me trompe, va être renforcée, hein, ce tournant en fait, vers une pensée évolutionniste va être renforcé lorsqu'il va entreprendre donc, des études comparées avec justement son gibbon et des enfants. Alors, ces études, il va les mener. Voilà, je ne suis pas très en phase dans mes diapos. En France, hein, dans un laboratoire à Bordeaux, il est donc nommé à son retour après sa mission indochinoise qui s'est terminée de manière un peu brutale avec des problèmes bassement politiques. Donc il revient et il est envoyé à Bordeaux où il va donc continuer son étude du langage animal, mais là en mettant, en confrontant donc son gibbon, donc que vous voyez ici avec une boîte à problèmes, avec donc des jeunes enfants, des enfants âgés de 2 à 10 ans, et il va chercher encore, c'est cette question donc à savoir si un enfant doué d'un langage est capable d'abstraction et un animal qui ne parle pas, apporter des éléments à cette question donc, du langage et de la capacité à abstraire. Alors là aussi, on peut voir donc, dans cette mise en expérimentation donc, d'enfants et de singes, l'influence d'un autre scientifique évolutionniste. Et cette fois-ci, il s'agit de Ernst Haeckel, donc un disciple de Darwin, un porte-parole de Darwin, qui, lui, a avancé à la fin donc, du 19e siècle, en 1866, la théorie donc, de la récapitulation, hein, à savoir que l'ontogénie, donc, c'est-à-dire le développement d'un individu, récapitule donc, la phylogénie, c'est-à-dire l'histoire d'une espèce, de son espèce. Donc, le développement de l'embryon humain, pour Haeckel, montre les stades majeurs hein, de l'évolution de l'homme, et l'homme est le produit le plus achevé de cette évolution. Donc cette théorie de la récapitulation, Boutan l'a mise en pratique dans ses travaux d'embryologie. Je vous ai dit donc qu'il avait fait sa thèse sur le développement d'un mollusque marin. Donc, il a étudié ces phases de l'embryologie et cherché à identifier donc cette théorie de la récapitulation. Et là, en fait, on peut voir dans ses travaux entre singes avec son gibbon et donc ses enfants, une idée donc d'appliquer cette loi qu'on appelle la loi biogénétique fondamentale, hein, cette loi de la récapitulation, à la compréhension donc du développement de l'esprit humain, donc et dans ces cas-là, de l'esprit de l'enfant. Donc, il va rapprocher aussi ces séances, enfin, il se permet donc ce rapprochement aussi en obéissant donc à ce paradigme de cette loi de la récapitulation. Donc, à cette idée donc d'une quête évolutionniste, hein, d'une recherche donc de compréhension du développement de l'esprit humain, se rajoute donc, et là je passe à la partie plus expérimentale, donc une application aussi des lois de résultats de la psychologie américaine. Je suis désolée, mais mes photos sont vraiment pas dans le bon ordre. Je pensais que c'était plus en phase. Donc en fait, ce gibbon et ses enfants, il va les mettre dans un laboratoire. Donc on est véritablement dans une volonté d'expérimenter cet esprit animal. Donc il installe dans son laboratoire de l'Université de Bordeaux un laboratoire pour étudier la psychologie de son gibbon et celle des enfants. Donc il se met lui dans ce qu'il appelle son cabinet noir, qui est une pièce sombre, qui lui permet de visionner à travers un obturateur ce qui se passe dans la chambre du gibbon. Donc la chambre où le gibbon travaille avec ses boîtes à problèmes, ces boîtes que je vais décrire un peu plus en détail tout à l'heure. Donc la boîte est installée sur une table, le gibbon est apporté par un assistant dans un panier et il soulève le torchon qui le cache et donc le gibbon se retrouve à manipuler des boîtes dans cette chambre en étant donc observé à son insu, sans le savoir, c'est sur quoi insiste Boutan, par Boutan donc qui est caché dans le cabinet noir. Donc ça c'est la partie avec le singe et avec les enfants. Donc les enfants sont dans ce qu'il appelle la chambre des enfants. Et pareil, il y a des boîtes à problèmes qui sont là, même le sol. Les parents regardent leurs enfants jouer, donc les enfants se sentent rassurés, ils jouent comme ils joueraient chez eux, si on peut dire. Et pareil, Boutan insiste pour dire que les enfants ne sont pas stressés non plus par l'observateur que Boutan est, puisque lui se met dans le cabinet noir, il a un système avec son assistant pour indiquer qu'il s'est caché et qu'il va donc commencer à observer ses enfants. Les enfants arrivent et la séance expérimentale peut commencer. Donc il insiste sur ce bouton, c'est un point vraiment extrêmement important, pour dire que ces expériences, ces observations sont des observations de comportement spontané, de comportement, il ira jusqu'à dire naturel, puisque il a tous ses moyens de piéger en fait le comportement à travers cet obturateur photographique et à travers une porte entrebâillée pour ce qui concerne les enfants. Alors cette idée d'observer un comportement spontané de la part de ces sujets expérimentaux, elle se traduit dans l'organisation du laboratoire et elle est aussi, un point sur lequel j'ai voulu insister, elle révèle pour moi comment Boutan est influencé par des idéaux d'éducation qui sont l'objet de débats importants au début de la Troisième République. Cette question de savoir comment on va éduquer les enfants si il y a deux clans encore là. Il y a ceux qui sont les réformateurs de l'éducation, parmi lesquels se trouvent donc peut-être des personnes que vous connaissez, Pauline Kergomar, Henri Marion, Ferdinand Buisson. Donc ce sont ceux qui défendent ce qu'ils appellent donc les méthodes actives, hein, des méthodes donc qui visent à éveiller donc les facultés latentes de l'enfant. Ces initiatives qui privilégient en fait l'apprentissage davantage que la réception passive de l'enseignement. Et là, on peut chercher plus loin. En fait, ces méthodes actives, on peut les rapprocher d'une éducation un peu rousseauiste, hein, où donc il y a donc volonté, hein, de laisser l'enfant être un enfant, hein, de le laisser donc exprimer des comportements spontanés et de le laisser apprendre par lui-même. Donc toute cette influence se voit aussi, donc, pour moi, Bouton est influencé par ce débat. Il prend le parti de ces réformateurs contre ceux justement qui vont chercher à développer une éducation mécanique, un dressage, hein, ça c'est toute un autre clan qui autour de Gustave Le Bon et qui donc considère que l'apprentissage se fait de manière en inculquant donc des instincts qui deviennent à force de répétition inconscients qui deviennent à force de répétition conscients. Donc une technique du dressage qui a totalement délaissé Boutan et donc une référence même si elle n'est pas explicitement dans le texte, mais qui pour moi est active dans ces expériences, à ces méthodes donc d'éducation rousseauiste. Donc il insiste, hein, comme Rousseau, vous savez, dans L'Émile et l'éducation, avait insisté pour dire qu'il fallait une étroite relation entre le tuteur et son élève, donc entre Émile et son tuteur. Et bien là, Boutan insiste pour dire que son gibbon, il le connaît très bien, que les enfants aussi, donc ces jeunes enfants avec lesquels il travaille, sont très familiers, ce sont des enfants qui ont été élevés librement, sans contrainte, sans sévérité. Et il insiste aussi pour dire donc qu'il va traiter, hein, ces enfants avec douceur, sans créer de stress, puisque, et là c'est important, hein, un stress en fait induirait une erreur dans l'étude et donc serait un biais expérimental. Donc ce qu'il va faire, hein, c'est donc jouer aussi sur la faculté que les enfants ont à jouer, donc mettre dans ces boîtes à problèmes des jouets pour les enfants. Et pour donc l'animal, hein, une friandise, comme vous le voyez ici, donc pour attirer, donc animer l'appétit et donc aussi faire en sorte que dans ces expérimentations, les sujets expérimentaux soient actifs. Donc ces boîtes, hein, alors là, elles sont inspirées, pour le coup, là, je trace une autre généalogie, donc deux techniques, deux résultats de la psychologie expérimentale américaine, et c'est notamment donc ces travaux de ce psychologue américain Thorndike, donc qui à la fin du 19e siècle a cherché à comprendre donc comment se faisait l'apprentissage et a postulé, hein, que en fait les animaux donc apprenaient seulement par essai et erreur et par récompense et punition. Donc les animaux qu'il a utilisés pour ses expériences, ce sont des petits animaux, comme vous voyez ici, des chats. Donc il a enfermé donc dans des boîtes à problèmes, et le chat donc doit comprendre comment ouvrir la cage, la porte de la boîte dans laquelle il est enfermé pour aller récupérer donc de la nourriture à l'extérieur. Donc le chat est affamé, il est en situation de stress, et Thorndike donc soumet à cette diète, enfin ces animaux, et pour voir comment ils se débrouillent, hein, pour aller chercher donc de la nourriture à l'extérieur. Donc cette étude inspire Boutan aussi, donc il y a toute la partie socioculturelle française, mais là donc une partie beaucoup plus, il cite Thorndike, hein, il cite ses expériences réalisées avec des boîtes à problèmes, et des expériences donc qui ont mis en évidence donc c'est cet apprentissage par essai et erreur, donc révélé par ces courbes courbe d'essai et d'erreur, comme Thorndike les appelle, et donc une quantification, une mathématisation de cette de son comportement. Donc là, c'est vraiment tout l'aspect, l'importance donc du laboratoire, de la psychologie expérimentale réalisée en laboratoire, qui commence aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui arrive donc, dont Boutan s'inspire pour ses expériences avec son gibbon et ses enfants. Alors, il va quand même changer certaines choses par rapport à ses techniques. Hein. Il pense que Thorndike, en fait, a cantonné les animaux à exprimer simplement des comportements d'essais et erreurs, et qu'il n'a pas, mis en évidence, ou tout au moins, il avait mis en évidence que pour les singes, donc des animaux plus grands, donc il y avait peut-être une possibilité d'un raisonnement, mais il avait délaissé donc ce résultat. Hein, Thorndike n'avait pas voulu aller au-delà d'une certaine, n'avait pas voulu s'avancer davantage en ce qui concerne donc le raisonnement des singes. Alors, Boutan va se distancer par rapport à ces résultats. Hein, il nous dit je ne veux pas être du côté d'un romanesque qui va dire qu'un crabe et un homme, c'est à peu près la même chose à quelques degrés près. Mais il nous dit, hein, Thorndike, eh bien, peut-être accorde trop peu à la puissance animale de l'animal. Et peut-être qu'il faut trouver, donc, entre romanesque qui fait des animaux des êtres aussi doués potentiellement que l'homme, eh bien, et Thorndike qui dénie l'intelligence aux animaux, quelque chose entre les deux. Donc, il va inventer d'autres types de boîtes. Hein. Ces boîtes, nous dit-il, des boîtes qu'on peut qualifier de puériles, deux types de boîtes avec des mécanismes différents pour justement mettre en évidence qu'il y a un comportement d'essai et erreur, mais aussi un comportement d'abstraction, un comportement, un raisonnement possible. Alors, en fait, pour lui, hein, les trois premières boîtes, les boîtes A, B et D, donc sur cette illustration, des boîtes avec ces mécanismes d'ouverture avec des targettes et des tapettes, hein, sont révélatrices, donc des boîtes à mécanismes visibles, comme il les appelle, prouver qu'il y a un comportement d'essai et d'erreur, alors que la quatrième boîte, hein, la boîte E, cette boîte à mécanismes cachés, eh bien, elle va être révélatrice d'un comportement rationnel. Alors, bon, je vais avancer un petit peu. En fait, donc, il va montrer donc que, en fait, pour les animaux, donc, les animaux et les enfants, il les fait jouer donc avec ses boîtes, hein, il va montrer donc que avec donc le premier type de boîte, donc ABDE, donc l'animal va déployer un comportement d'essai et d'erreur. Et qu'avec la boîte donc à poire, eh bien, là, il faudra que le sujet expérimental arrive à connecter deux notions, hein, presser la poire et ouverture de la boîte, et que cette connexion, en fait, cette capacité à connecter deux notions sera pour lui la preuve d'un raisonnement et d'une capacité à raisonner. Donc, la question est de savoir si pour un enfant donc, qui ne sait pas encore parler, donc ces enfants de moins de 2 ans, et pour le singe, donc ce gibbon qui a ce langage, mais qui n'a pas de mots à sa disposition, eh bien, il serait capable donc de formuler des idées, d'articuler des idées, malgré tout, qui leur permettent d'ouvrir la boîte, et ainsi donc de montrer qu'ils auraient un rudiment de raison. Alors, il va donc, je le disais, mettre dans ce laboratoire, observer donc à leur insu le gibbon et les enfants. Et pour lui, eh bien, au départ, donc, il va montrer que le gibbon arrive à comprendre qu'il faut pousser donc la targette dans une direction pour prendre la nourriture, qu'il arrive donc à avoir une série d'images, hein, comme il dit, qui sont associées à la boîte, au clapet, au bouton, à la targette. Et il va aussi montrer que, en fait, l'animal donc, est capable d'un raisonnement embryonnaire autour de cette boîte donc, à poire, en fait, que, il est, enfin, c'est ce qu'il dit, c'est pas, ça peut paraître un petit peu intuitif comme raisonnement, ou tout au moins pas très rigoureux, donc, que l'animal donc, a essayé donc, de comprendre le contour de la boîte, de forcer l'ouverture, de l'ouvrir avec, des dents, avec ses dents, pardon, qu'il est parti, qu'il est revenu, qu'il a joué donc autour de cette boîte, et qu'à un moment, donc, comme une espèce de, d'éclair, hein, c'est ce que d'autres psychologues ont appelé cet insight, hein, cette compréhension immédiate, eh bien, l'animal a compris qu'il fallait donc presser la poire. Alors, il arrive à une conclusion comme quoi, donc, ce gibbon donc, a eu un éclair de génie, a compris que la poire a compris le mécanisme caché, et donc il va donc affirmer, enfin tout au moins avancer que donc une fois que ce mécanisme, cette association est faite, eh bien le graphique, donc ces courbes d'erreur, d'essais d'erreur, prendrait un autre aspect, qu'il aurait une ligne droite, et cette chute de la courbe serait caractéristique d'une activité justement d'intelligence. Alors donc il se détache là des explications de Sorndack, et il dit hein, donc pour le chien, le chat, la conclusion sévère de Sorndack est peut-être justifiée. Il faut admettre qu'il n'en est plus de même chez les primates et que l'on trouve chez eux des indices d'une vie psychologique supérieure. Donc il ne montre pas la courbe, mais il dit la courbe serait de telle sorte qu'il y aurait cette chute qui est caractéristique donc d'un comportement, d'une activité psychologique supérieure. Alors, il s'avance, mais à un moment, il est quand même réticent. Donc, on est en 1913, il y a plusieurs hypothèses que j'ai essayé de trouver pour expliquer un peu ce recul, cette prudence d'un seul coup qu'a Boutan à prêter donc, l'intelligence aux animaux. Dans une note de bas de page, en fait, il va dire eh bien, que seul... l'enfant doué de langage, a compris la relation qui existe entre la traction sur la poire et l'ouverture de la boîte, donc cette boîte D, hein, cette boîte E, pardon, qui pour lui, qui va mettre en évidence un raisonnement, contrairement à ce que nous avons observé chez Pépé et chez les enfants avant qu'ils ne parlent. Donc là, il fait un marche en arrière, hein, il revient sur des positions où il veut prouver que le langage est seul permet la capacité d'abstraire, la capacité d'articuler des idées. Donc, il a avancé une idée forte, une idée qui allait à l'encontre de la prudence de Sorndack, hein, de ce psychologue américain extrêmement reconnu. Alors, pourquoi ? Eh bien, Boutan, vous l'avez vu, il travaille de manière donc, isolée, il est dans son laboratoire, il fait ça en dehors de son... De ses heures de cours, enfin de sa fonction de professeur de zoologie. Hein. Il travaille avec un seul spécimen, donc ce gibbon qu'il a rapporté d'Asie. Et c'est difficile, il se rend compte qu'il est difficile pour lui de généraliser hein, ses résultats. Il est isolé, je vous l'ai dit, il est donc à Bordeaux, il est loin de la communauté scientifique parisienne qui l'a un peu dénigré. Et aussi, il faut savoir qu'à la même époque, il y a tout ce courant qui entoure l'intelligence des animaux. C'est toutes ces études, enfin, ces anecdotes qui sont relatées sur ces animaux savants, hein, des animaux capables de compter. Et il y a eu, ces études ont été décriées et ont été traitées donc, de charlatanisme. Donc, une peut-être réticence aussi à voir passer ses travaux hein, scientifiques, enfin qu'il prétend scientifique, discrédité et associé donc à ses travaux sur les animaux savants. Alors cependant, le Boutan en fait qui ignore la portée d'une certaine manière hein, de ses travaux sera reconnu par un psychologue américain extrêmement connu, enfin aux États-Unis, donc Robert Yerkes, hein, qui va considérer justement que les travaux de Boutan avec son gibbon sont des travaux précurseurs de ceux qu'il va mener dans peu d'années après, donc sur l'intelligence animale. Et donc tes travaux où il montrera donc la, l'existence d'un comportement d'idéation chez les singes. Alors, je veux juste passer très rapidement sur aussi l'importance donc, de cette, ce flou qui va chez Boutan exister donc, entre le mélange se fait entre nature et culture, en fait. Donc, Boutan ne remet pas tellement en cause l'idée qu'il ait travaillé donc, avec un gibbon. Il a travaillé avec un gibbon qui est tenu dans des conditions qu'on pourrait appeler de semi-captivité. Hein. Il est donc libre dans la... Mais, il n'est pas en laisse, il n'est bien sûr pas enfermé dans une cage. Il vaque dans la maison de Boutan et il est amené au laboratoire de manière non sans contrainte. Mais Boutan donc continue, hein, je vous l'ai dit, à penser qu'il a un comportement spontané, un comportement naturel, malgré donc toute cette mise en scène autour de ce gibbon. Hein, le fait donc que sa femme a accueilli ce petit singe qui a été donc pris dans les bras de, comme souvent c'est le cas, hein, les jeunes, les petits singes sont pris, la mère est tuée et donc l'enfant est arraché de la mère. Donc il a été recueilli par la femme de Boutan, qui, ce couple n'a pas d'enfant, et elle le considère, hein, c'est ce qu'il nous dit, comme son enfant, comme son bébé. Un singe, hein, un gibbon, donc là ce sont des photos qui sont prises dans l'article de Boutan, hein, qui à qui on donne, on prête, donc on joue comme à la poupée d'une certaine manière, on le couche, on lui donne à manger. Et donc malgré tout ça, hein, donc Boutan continue, donc ne remet pas en cause donc le fait que tout le comportement, et ça aurait peut-être été une raison pour laquelle il aurait pu dire oui, bon, ce singe est intelligent, mais c'est un singe un peu spécial puisqu'il a été élevé dans un environnement humain et qu'il a été quand même fortement donc domestiqué infantilisé dans le sens où il a reçu une éducation comme un jeune enfant. Donc pour lui, ce comportement est spontané parce qu'il n'a pas été dressé. Et donc là, c'est à nouveau cette grande opposition qu'il dresse entre les techniques, donc méthodes actives des réformateurs de l'éducation et les méthodes du dressage. Et peut-être aussi cette confusion entre le naturel et l'artificiel, ou le naturel et le domestiqué, vient du fait que Boutan lui-même, eh bien, est devenu... à force de ses voyages, donc en Asie, en Mer Rouge, et puis à la fin de sa vie, donc il va se retirer en Algérie. Donc c'est il est devenu acculturé, il s'est habitué à d'autres cultures, et que lui-même, eh bien, la notion de nature et de culture est devenue un peu, la frontière entre nature et culture est devenue assez mouvante, et donc ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles, eh bien, le singe dans sa maison, de même que lui dans un environnement exotique, la frontière donc entre métropole, colonie, entre naturel et nature s'estompe, ou tout au moins se déplace, et on pourrait parler presque dans les deux cas donc d'un processus d'acculturation pour le singe comme pour Boutan, comme pour, vous le voyez ici dans cette position un peu de dans ce dernier lieu de vie de Boutan. Donc, je vais passer rapidement maintenant à Paul Guillaume et Meyerson. Je suis obligée d'aller un petit peu plus vite que je ne pensais. Donc, pour comparer, donc c'est cette étude, hein, ce qui s'achève un petit peu de manière, qui a été très courte dans la carrière de Boutan, entre 1908 et 1913-14, date où il publie donc deux articles sur cette psychologie animale. Et des travaux donc qui seront malgré tout connus donc de ces deux psychologues français, hein, Paul Guillaume et Meyerson, que vous voyez ici, donc qui eux donc vont travailler aussi sur la psychologie animale, sur la psychologie des singes, et vont commencer d'ailleurs par critiquer, hein, les travaux de Boutan, justement critiquer le fait qu'il ait travaillé que sur un seul animal et qu'il ait eu des conclusions hâtives. Même si on a vu qu'il avait une certaine forme de prudence, ils vont voir en Boutan un peu un marginal, hein, quelqu'un qui a travaillé sans un cadre strict. Et pour eux, donc, eh bien, il va s'agir de refaire, hein, de prouver l'intelligence animale d'une manière beaucoup plus structurée, encadrée et plus inscrite aussi dans cette psychologie française qui a, depuis le début du XXe siècle, été totalement réformée, notamment par les travaux de les positions d'Henri Pierron, donc, qui va donc déclarer que la psychologie, hein, c'est une science au même titre que les sciences naturelles ou la physique, puisque elle ne s'intéresse plus, comme l'ancienne psychologie, à l'étude de la conscience, mais à l'étude du comportement. Donc c'est une espèce de... Enfin, là, je fais un rapprochement un peu grossier de behaviorisme français, donc, qui est avancé par Pierron en 1907, donc avant le manifeste du behaviorisme en 1913. Mais il y a cette idée donc que cette psychologie, si elle veut devenir scientifique, ne peut plus donc s'intéresser à l'étude introspective, à la conscience, et qu'il faut donc... elle doit se baser sur l'observation du comportement. Alors Guillaume et Meyerson sont dans cette mouvance, hein, l'un est agrégé de philosophie, l'autre est Paul Guillaume, pardon, Meyerson lui a une éducation pluridisciplinaire, donc c'est le petit-fils c'est le neveu, pardon, de Émile Meyerson. Il a fui la Pologne et émigré en France avec sa famille en 1906, et il aura un parcours universitaire pluridisciplinaire, hein, entre des études de sciences naturelles, de médecine et de philosophie. Et il sera une figure importante pour la psychologie française en étant notamment le rédacteur en chef de du journal de psychologie normale et pathologique pendant de longues années. Donc tous les deux sont, donc c'est une génération après déjà, mais sont bien imprégnés donc de cette... de cette réforme de la psychologie française, donc initiée par Pierron, de cette volonté de faire de la psychologie une science expérimentale. Mais par contre, contrairement à Pierron qui veut donc réduire, réduire la psychologie à l'étude du comportement et à surtout en donner une base physiologique, eux continuent à vouloir s'intéresser aux états mentaux, donc à des phénomènes de conscience. Alors, en fait, ils vont être tous les deux les traducteurs, au sens propre du terme d'ailleurs, puisque Guillaume va traduire les théories donc, de la Gestalt, les théories de la perception, donc toute une autre partie de la psychologie, une autre réforme de la psychologie à côté du behaviorisme. Donc, ils vont tous les deux s'intéresser à traduire donc c'est là aussi je dois aller plus vite donc c'est à rendre compte de ces théories de la Gestalt qui se situent en parallèle dans le renouveau de la psychologie, en parallèle donc du behaviorisme. Donc les théories de la Gestalt, bon là c'est vraiment de manière très très simplifiée, donc c'est une théorie de la perception et une théorie qui affirme que en fait lorsque la perception des formes, des objets, ne peut pas se réduire à l'analyse d'une somme de parties, mais qu'il y a toujours que la forme qui apparaît en fait est plus que la somme des parties. Donc par exemple ici, si vous voyez, certains vont voir un vase blanc et d'autres personnes vont voir deux visages noirs. Donc cette idée que dans la perception, donc il y a une chose qui se dégage au-delà des simples éléments. Une simple réduction élémentaire. Donc c'est un courant psychologique de psychologie qui vient d'Allemagne, dont je ne vais pas en faire l'historique, mais c'est l'idée, hein, donc que la perception, donc on ne peut se dire est plus que la somme élémentaire, donc des parties d'une forme. Alors, cette théorie de la Gestalt, elle a été appliquée à l'étude de la psychologie animale, donc je reviens aux animaux, par une figure très représentative du mouvement, donc Wolfgang Köhler, donc un psychologue allemand, qui a donc, avant la Première Guerre mondiale, mis en évidence donc, une capacité d'intelligence, c'est chez les chimpanzés. Donc là, ce sont des travaux qui sont réalisés dans les îles Canaries, à Tenerife. Et donc Köhler, donc psychologue allemand, psychologue gestaltiste, applique donc les théories de la gestalt pour mettre en évidence qu'il existe une capacité, une intelligence animale. Donc Meyerson et Paul Guillaume vont non seulement donc traduire faire connaître donc ces théories de la gestalt en France, et ils vont aussi s'intéresser donc à appliquer, à repliquer en fait à les expériences de Köhler, mais donc avec des singes français. Des singes français, pas tout à fait en fait, puisque ces singes viennent, là encore il y a un lien avec le monde colonial, cet empire colonial français qui est extrêmement fort à cette époque, hein, viennent donc d'outre-mer, hein, ils viennent de Guinée française, et ils sont donc où il construit, hein, et fondait un institut Pasteur en 1924, un institut Pasteur qui veut utiliser, donc là on est plus dans le registre de l'expérimentation animale biomédicale, hein, qui veut se servir donc de ces singes pour tester des vaccins contre la tuberculose et toutes sortes de vaccins contre des maladies infectieuses. Donc c'est à Kindia, hein, un bastion donc de l'Institut Pasteur, de Calmette, donc cette grande figure de la médecine française, hein, demande la fondation de cet institut. Alors les singes qui sont utilisés à des fins médicales devaient initialement aussi servir à des études de psychologie, mais le projet n'aboutira pas, ou alors il aboutira d'une certaine manière simplement avec donc ces travaux de Paul Guillaume et Meyerson qui sont réalisés non pas à Kindia, ils n'iront jamais donc sous les tropiques, mais à l'Institut Pasteur. En fait, les chimpanzés qui ont survécu d'une certaine manière à ces vaccinations, eh bien sont donnés, sont prêtés à Guillaume et Meyerson pour réaliser des études de psychologie. Donc là, ce sont les conditions dans lesquelles Guillaume et Meyerson donc travaillent pour repliquer donc ces études de la psychologie gestaltiste allemande. Alors en fait, en quoi vont consister dans ces expériences sur les singes? Comment vont-ils mettre en évidence cette capacité d'insight, hein, donc de compréhension immédiate d'un problème? Eh bien, donc c'est sur ces différentes espèces de singes, en particulier donc des chimpanzés, et en particulier sur cette chimpanzé, toujours un singe un peu plus brillant que les autres dans ses études sur l'intelligence. Pour plusieurs qui, ça sera un orang-outan. Là, c'est une chimpanzé, donc Nicole, qui est très brillante et qui va être plus intelligente que les autres et montrer donc qu'il existe vraiment des capacités intellectuelles chez les singes. Donc, qu'est-ce que vont faire subir Guillaume et Meyerson à ces singes? Donc, ils sont dans ces cages, hein, que vous avez vu. Ils travaillent donc derrière des barreaux et doivent manipuler sur des... sur des tables, hein, doivent attraper des objets, toujours, les singes sont gourmands, donc des bananes, des morceaux de pommes, et donc comprendre comment le meilleur moyen pour attraper donc ces appâts. Alors, donc, un test qui est le plus révélateur pour Köhler et pour Guillaume et Meyerson, donc c'est ce fameux test du détour. En fait, donc c'est l'idée que donc dans cette expérience, un animal est placé dans une situation où il est à proximité donc d'un objet qu'il désire atteindre, hein, c'est donc souvent de la nourriture, mais que cet objet est placé derrière un obstacle, donc l'accès lui est interdit. C'est soit un filet, soit des barres, soit un obstacle. Donc pour atteindre l'objet, quand vous voyez tout en haut, donc le singe, donc le sujet doit contourner, doit faire un détour, hein, et pour perdre donc de vue l'objet qu'il désire et l'atteindre de manière indirecte. Alors, Il y a plusieurs détours possibles. Un détour à 90 degrés en A, à 125 degrés en B et à 180 degrés en C. Et dans le troisième détour, là, c'est encore plus fort puisque le singe, au lieu d'aller directement vers l'objet qu'il désire, elle doit vraiment s'en éloigner et l'objet, même à un moment, va disparaître. L'objet convoité va disparaître de la vue de l'animal. Et donc, ce qui accentue donc la représentation dans l'espace de cet objet. Alors, pour que l'heure, donc va révéler que l'animal est doué d'un insight, hein, de cette reconnaissance soudaine de la solution à un problème, et donc se traduirait, comme Bouton l'avait suggéré, comme Yurkis le montre, par cette chute brutale, hein, de la courbe d'essai et erreur, cette courbe qui caractérise les comportements d'animaux moins aux capacités mentales moins développées. Donc, pour que l'heure, hein, le changement brutal dans la conduite animale de l'animal se produit, donc, car l'animal a vu une situation dans un sens très différent. En fait, il a eu ce qu'on appelle une restructuration perceptuelle, et c'est là qu'intervient l'idée de la gueule chat. Donc, il a recomposé l'objet dans son environnement et qui a fait qu'il est capable donc, de cette abstraction, de cette nouvelle appréhension donc, de son environnement. Il a vu l'objet, la capacité donc, de se détacher de cet objet pour s'en rapprocher. Donc, il a recomposé, hein, une recomposition donc, perceptuelle, nous dit-il, de son environnement. Alors, le test est encore plus difficile lorsqu'il s'agit... alors là, c'est avec Guillaume et Meyerson. Donc, pour que l'animal, donc c'est les expériences pardon, ont été faites dans cette station expérimentale où les animaux sont en semi-liberté, où ils doivent donc comprendre qu'il faut joindre des différentes tiges pour atteindre une banane, par exemple, qui est accrochée au plafond de leur enclos expérimental, ou alors mettre des caisses, hein, comme vous pouvez le voir ici, pour comprendre qu'il faut... Pardon. Atteindre donc l'objet, donc une reconfiguration là aussi de l'espace pour comprendre la manière d'arriver à cette banane, alors que pour Guillaume Emerson, qui travaille dans des conditions dont il se plaignent, à des conditions beaucoup plus contraignantes, il faut donc jouer avec la cage, les barreaux et puis des tables devant les animaux. Donc une autre expérience, hein, c'est cette boîte caisse creuse, hein, qui donc est mise devant, pareil, le grillage. Et là, donc l'animal, pour Guillaume et Meyerson, aurait tendance à attirer à lui directement l'objet qu'il désire, hein, ce morceau de pomme. Et pareil, il faut qu'il comprenne que, en fait, il faut repousser l'objet vers un espace où il n'y a rien, pour le faire, le contourner, là, le détour est donc marqué par cette ligne en pointillé, hein, donc éloigner l'objet qu'il désire pour le récupérer de l'autre côté. Donc là, pour Guillaume, hein, ça prouve que l'animal donc, est capable de se détacher d'une situation actuelle, immédiate, concrète, de se poser un but idéal, et qu'il a donc qu'il peut passer d'une conception... C'est beaucoup peut-être de jargon, hein, auto-centré à une perception plus objective de la réalité. Donc, Guillaume et Meyerson, hein, vont retraduire en fait de manière assez... tous les deux sont une formation philosophique forte, donc vont le retraduire en termes donc, de finalité du comportement, de problème aussi de perception de l'animal, hein, donc peut-être envisager ces études sur de chercher tout au moins à montrer dans ses travaux sur l'intelligence animale à montrer l'importance donc du point de vue de l'animal, peut-être davantage que l'a fait Köhler. Alors là aussi, je terminerai là-dessus, hein, je voulais insister donc sur la prétention, ou tout au moins prétention sans aspect négatif de Guillaume et Meyerson à considérer que là encore ce qu'ils font dans ces cages, dans cet institut de Pasteur, eh bien, est scientifique, hein, qu'il faut que ces expériences ont cette, sont scientifiques parce qu'elles sont réalisées dans les conditions du laboratoire. Il dénigre en quelque sorte cette approche naturaliste, hein, cette approche qui s'est développée à la fin du 19e siècle. Ils emploient même ce terme de field naturaliste, donc de naturaliste de terrain, insistant pour dire que eh bien, l'observation d'un comportement dans la nature, c'est totalement aléatoire, hein, c'est juste un coup de chance, hein, et ça ne permettra jamais de mettre en évidence un comportement et de décrire de manière scientifique un comportement. Donc, contre cette série de hasards heureux, hein, il pense en particulier à, enfin, la référence est faite par Guillaume à Henri Fabre, l'entomologiste français, qui lui a toujours insisté pour étudier les animaux justement dans des conditions naturelles, en plein air, et c'est aussi toute la problématique qui oppose les éthologistes du type Lorenz Tinbergen aux psychologues. Donc là, il y a cette volonté de se situer, de la part de Guillaume, hein, du côté donc, du laboratoire, de l'expérimentation qui tranche contre l'observation, l'expérimentation qui est rigoureuse, qui permet de contrôler, de répéter, et donc qui est scientifique. Alors, ceci ne l'empêche pas pour autant de prétendre, et là on retrouve cette idée partagée par Bouton, que ce singe qui est enfermé dans cette cage, eh bien, nous dit-il, son acte pour être nouveau n'en est pas moins réel. Et là, d'un seul coup, il y a un glissement assez rapide. Il est naturel, donc réel et naturel sont assimilés, en ce sens qu'il répond à des possibilités qui font partie de sa nature. Donc, il s'agit de définir pour toutes les situations possibles ces virtualités dont ces actes ordinaires ne sont que des cas particuliers. Donc il est persuadé, hein, que ce singe enfermé dans une cage, donc qui est en captivité, hein, il observe son acte. Donc c'est bien l'idée du comportement, hein, de cette idée donc de Pierron. Hein, on regarde, c'est l'acte de l'animal qui est observé. Cet acte est réel, cet acte est naturel, et il conclut, alors là c'est encore un peu plus incroyable, hein, la distinction de situation naturelle et artificielle, de réaction naturelle et artificielle, n'a donc pas de signification profonde. Donc là on voit bien cette volonté, hein, de la part de ces psychologues de toujours prétendre, même s'ils sont dans des conditions de fortes contraintes, mais qui pour eux sont la garantie de scientificité, d'observer donc un comportement naturel. Alors donc pour trois mots de conclusion, hein, donc pour essayer de synthétiser un petit peu ces deux études, deux cas d'études. Bon, j'ai plus insisté sur Boutan, je suis prêt de m'en excuser, je suis passé très rapidement sur Guillaume et Meyerson, mais on voit que donc dans ce cas de la France, hein, donc du début du XXe siècle. Dans les deux cas, donc, ces études de psychologie animale, hein, sont conduites dans des territoires qu'on peut qualifier de marginaux, dans le sens où ils ne sont pas dédiés à la psychologie en soi. Hein. Boutan, lui, donc, a installé ce laboratoire à côté, à l'université, mais ce n'est pas un laboratoire de psychologie animale, comme on peut le voir à la même époque aux États-Unis avec Yerkes, que je citais tout à l'heure. Guillaume et Meyerson aussi, donc vous l'avez vu, poursuivent des études dans des territoires qui ne sont pas dédiés du tout à l'étude du comportement des animaux. C'est cet Institut Pasteur où on leur permet, donc avec des animaux de seconde main, puisqu'ils ont été utilisés pour d'autres premières sources pour la recherche biomédicale, donc on leur permet de travailler avec ces animaux de seconde main. Boutan, comme Guillaume et Meyerson, réalise ses études aussi de manière assez ponctuelle et très circonscrite, pardon, dans leur programme, dans leur agenda scientifique. Hein. Aucun d'eux n'est un psychologue comparatiste ou animalier, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais ils ont travaillé sur un sujet de manière ponctuelle, isolée, hein, et ces travaux, en fait, n'auront pas véritablement de suivi, ne seront pas repris ni par des disciples, ni encore moins par des écoles. Donc, cette histoire de la psychologie française et de la psychologie animale française est complètement passée sous silence, hein, dans de nombreux récits c'est vrai, sont dominées par tout l'apport anglo-saxon, même si, donc je disais tout à l'heure, un Yorkiste qui va sortir un petit peu là de l'ombre, ce personnage de Boutan. Donc ce sont les Américains qui, en quelque sorte, ont pu rendre ont pu apporter une certaine reconnaissance à ses travaux. Et enfin, donc, dans les deux cas, hein, on voit que donc Boutan et Guillaume se sont appropriés des théories étrangères, ont traduit pour Boutan donc toute la partie de la psychologie expérimentale américaine, et pour Guillaume Meyerson, toute cette théorie de la Gestalt. On fait ramener toutes ces théories en France à travers donc ces modèles animaux, mais en les traduisant, se les réappropriant aussi, on cherchait à répondre à des questions peut-être davantage philosophiques, hein, la question du langage pour Boutan, la question de, là je ne l'ai pas détaillé, mais pour Guillaume et Meyerson, ça sera la question en fait de ce qui fait le propre de l'homme. Ils passeront de ses travaux sur l'intelligence à la notion de culture animale, en montrant justement que eh bien, la culture n'existe pas chez les animaux. Alors là, ça ferait bondir certains éthologues contemporains, mais ils vont chercher en fait, à travers l'animal, à rendre compte d'une spécificité humaine. Donc ce sont des études dans les deux cas, pour Guillaume Meyerson, une spécificité humaine, et peut-être pour Boutan, une spécificité de l'enfant, donc cette capacité du langage. Donc dans les deux cas, une visée anthropocentrique, hein, on cherche dans les animaux le moment à montrer ce qui nous en sépare le plus. Donc on cherche davantage à comprendre où l'humanité divergerait d'une animalité. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.
Un vaste sujet, en effet. Je vous remercie d'avoir nous avoir parlé de... On ne s'attendait pas tout à fait à ça. Je veux dire que je pense que le public pensait qu'on allait résoudre le problème de l'intelligence chez les singes.
Bah, ils sont intelligents aussi, voilà, quand même.
Mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, tu nous as montré quelles étaient les expérimentations qui étaient faites. Et aussi ce travail de Boutan, comme tu le disais, qui était assez peu connu. Mmh. Et aussi les analogies que tu as faites entre en effet la manière d'appréhender l'animal. Est-ce que la manière d'appréhender l'animal est culturelle? Ça, c'est très intéressant par rapport en effet aux pays anglo-saxons ou en France, où on est plus on a des positionnements différents. Et puis bon, vraiment c'est un sacré boulot. Bon, merci beaucoup Marion Thomas, et puis je passe la parole à la salle. On a peu de temps parce qu'on a une conférence après, et de toute façon, je savais qu'on ne répondrait pas à la question. C'était un petit peu de la provocation, ce que je te disais, parce qu'il était bien évident.
Si, mais
bien évident qu'on ne répond pas à la question. Et ce que tu montres, c'est la manière dont on cherche en effet à y répondre. Et aussi toutes ces écoles qui sont mises en place et qu'on méconnaît complètement. Hein. Je veux dire, on parle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Y a-t-il des questions?
On en est où maintenant?
Voilà.
Alors, je crois. La question du langage animal a fait beaucoup de... Enfin, a été l'objet de nombreux travaux avec les... Pourquoi je me trompe Washoe, les Parker aux États-Unis. Et ça, c'était dans les années 70-80. On essayait de chercher tout le langage symbolique de ces chimpanzés, enfin, de mettre en évidence l'existence d'un langage. Et depuis les années 90-80, ce sujet a été quand même assez abandonné par les primatologues. Hein. Mais il y a un très bel ouvrage sur cette question-là. Bon, c'est un pavé, c'est 500 pages d'un historien, rédigé par un historien britannique, sur cette question du langage animal, et il montre comment, ça s'arrête, qu'il y a dans les années 80 une convergence en fait entre les psychologues et les éthologistes, parce qu'il y a combinaison donc d'approches de laboratoire et de terrain, que cette question va vraiment les occuper, mais abandon, enfin à ma connaissance de cette question depuis une quinzaine d'années sur le langage animal. Enfin, il n'y a plus de programmes de recherche aussi importants que ceux qui ont été donc développés autour Dans les années 70-80.
Sur le langage, mais
oui, sur le langage. L'intelligence, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait. Parce que là, il y a vraiment une conjonction d'études. Donc, il y a surtout. Le primatologue York, qui va vraiment montrer le comportement d'idéation donc en 1916, en même temps que l'heure, hein, en fait, c'est 1914. Donc, il pose cette existence d'une capacité de compréhension, donc d'insight ou d'idéation pour Yorkisme. Mais depuis. Non, c'est surtout, je pense, la notion de langage et de culture animale. C'est vraiment là, davantage que intelligence, c'est un petit peu trop vague. Là, on était. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des. Enfin, je ne peux pas non plus l'affirmer, mais cette question n'est plus, pour un éthologue actuel, elle est plus pertinente, je pense. Il la poserait autrement. Surtout, il la poserait, cette question des cultures animales. Ça,
Qu'est-ce que vous entendez par culture animale?
Ben, le fait que, par exemple, l'exemple le plus important, c'est cette idée du cassage de noix. Comment donc la capacité d'une mère de transmettre à son enfant un savoir-faire ou de capacité aussi de savoir planter une tige pour récupérer des termites et dans un voilà donc toutes ces. Et il y a aussi toutes les études sur le terrain. Bon, avec là, c'est Jane Goodell et toute cette tradition. D'aller montrer sur le terrain qu'il existe des cultures animales, qu'il existe des comportements intelligents bon, dans in the field, enfin dans oui. Et là, on est loin de ces justifications. En fait, c'est pour servir davantage la psychologie tout court, montrer que ça marche. C'est là que le modèle animal peut-être est instrumentalisé pour dire. Ça marche, regardez, on arrive en laboratoire à montrer un comportement intelligent chez des singes. Donc la psychologie est une science qui s'appuie sur des modèles animaux, est une science et scientifique. Donc c'est davantage, c'était une de mes hypothèses aussi dans mon travail de thèse, de montrer qu'en France, en tous les cas, la psychologie animale était une espèce de tremplin pour que s'affirme la psychologie humaine. Donc tout ce qui est valable sur les animaux est valable aussi sur l'homme. Donc c'est toute cette tradition aussi presque bernardienne, Claude Bernard.
Quand on pense aux neurosciences,
que c'est totalement obsolète.
C'est pas une question d'obsolète. Vous avez abordé la question de point de vue historique.
Oui, mais l'histoire n'est pas obsolète.
Puisque c'est historique, c'est pas obsolète. Oui. C'est la question que vous êtes posée, c'est oui. L'histoire au début du 20e siècle. Oui. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Je ne suis pas très bien passé parce que je travaille sur les rongeurs. Mais il faudrait définir déjà ce que c'est que l'intelligence pour répondre à la question. Oui. Et ça, c'est une question extrêmement difficile. Mais si on définit l'intelligence par l'apathie, la coopération, la conscience de soi, la projection dans l'avenir, alors la réponse est oui à tout cela. Parce que les primates sont capables de tout cela.
Ouais.
Si on définit l'intelligence telle que ma collègue l'a définie, à savoir le langage, parce que le langage va donner accès à l'abstraction, alors bien évidemment, il n'y a que nous qui avons accès au langage tel qu'on l'entend. Je ne suis pas certain que la définition initiale, à savoir langage, donc abstraction, donc intelligence, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas du tout la voie qui est empruntée par les chercheurs. Il faut dire, là c'est abordé le point de vue historien, il faut dire que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de, ça fait 50 ans maintenant, il y a eu un bond énorme dans les études de comportement animal et pour répondre à ce type de questions. Je serais tenté par dire que, du moins chez les primates, il y a de nombreux signes d'intelligence.
Non, mais c'est vrai. J'aurais peut-être dû intelligent, doué de raison, peut-être. C'est tous ces termes équivalents. Vous voyez, c'est sûr que là, c'est un terme un petit. Vous avez raison de le reprendre, un peu fourre-tout. Capacité de langage, capacité d'abstraction, articulation des idées, idéation. Que l'heure, je ne sais même. C'est traduit en anglais par. J'avoue, je ne sais pas en allemand comment il le dit, mais mentalité, je crois, des singes. Encore un autre concept. Donc, si, c'est ça, c'est mentalité. Et donc, tous ces termes que j'ai regroupés sur un peu cette grosse. Ce terme fourre-tout intelligent, oui, c'est peut-être. Ouais. Un peu facile. Oui, vous avez raison de le reprendre. Oui.
C'est la question que m'a été posée, mais sur un point de vue aussi strictement biologique,
oui.
Si on parle de génétique, on partage, comme tout le monde sait maintenant, plus de 98% de nos gènes avec certaines espèces de cellules. De point de vue anatomique et organisationnel, on a un cerveau qui finalement ressemble beaucoup au cerveau de primates. Ce qui nous distingue surtout, c'est notre cortex frontal, mais le reste, c'est quasi identique. C'est pour ça que nombreux de mes collègues font de l'expérimentation animale chez le singe avant de pratiquer quoi que ce soit chez l'homme. Donc, la frontière, elle est là, elle existe, bien entendu. On voit très bien le décalage énorme entre les espèces. C'est vraiment l'attitude de dire ça. Mais plusieurs animaux, pas seulement les singes, sont capables d'actions qu'on qualifierait d'intelligentes. Et pas, en dehors du mimétisme, bien entendu, quand vous avez parlé d'animaux savants, c'est effectivement du mimétisme ou bien du conditionnement.
Du conditionnement, oui.
Pas
oui, c'était du conditionnement, pas plus rien. Oui.
Le doctorat SHES, pardon, Mohamed Jaber est professeur en neurosciences.
Oui.
Voilà. Sur l'éclairage et le regard.
D'où, voilà. Donc, d'où l'intérêt aussi que tu as montré pour l'analogie entre les enfants et les singes. Savoir que les enfants, à cette époque, on considérait que l'enfant, en effet, était malléable. Tu le montres bien aussi dans tes articles. Et bon, il y a une analogie entre l'éducation que l'on fait à l'enfant et puis quelqu'un, un petit être peut-être qui n'a pas encore doué de raison, qu'on peut éduquer quand même. Et on peut éduquer aussi. Aussi l'animal, comme on éduque un enfant. Je veux dire, une espèce d'analogie étrange, là, qui fait un peu peur, d'ailleurs, entre une espèce de barrage d'espèces là, qu'on passe. Mais ça, c'est aussi c'est très intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, excusez-moi, je suis lente.
Oui, c'est une question élémentaire, mais qu'est-ce que devient l'instinct dans cette histoire-là?
Qu'est-ce que vient
l'instinct?
C'est cette grande opposition instinct-intelligence, instinct-comportement inné, intelligence-comportement acquis. Là, quand on lit Guillaume Meyerson, ils ont l'impression que c'est l'actualisation de quelque chose qui serait inné, naturel. Parce que pour eux, c'est quand même ça, l'intelligence, ce comportement. Mais pour moi, on n'est que dans de l'acquis, que dans. Il n'y a rien de. C'est vraiment des. C'est l'apprentissage. Donc, moi, je l'opposerais aux études justement de l'instinct faites par Lorenz, qui va justement critiquer tous ces psychologues pour dire mais eux, ils étudient l'apprentissage, les comportements acquis. Moi, je ne m'intéresse qu'au schéma instinctif parce que je veux établir des arbres généalogiques, phylogénétiques avec. Comme un anatomiste étudie les organes ou les différentes pièces anatomiques, moi j'étudie l'instinct, le comportement qui se déploie de manière systématique en fonction d'un stimulus précis, etc. Donc là on est dans, on est dans la part l'opposé. Et tous les behavioristes, même si ce ne sont pas des behavioristes, mais. C'est quand même l'idée que l'instinct, c'est plus un objet d'étude. Pour eux, on l'enlève du laboratoire. On ne pourra pas. Non, déjà, on n'est pas dans le lieu où. C'est quand même que l'instinct se déploie dans un milieu naturel, sans contrainte. Alors que là, on est dans des situations conditionnées, contraintes. Même si, pour justement. C'est l'instinct naturel, c'est là où il y a peut-être ils veulent à chaque fois revenir sur des. Mais ça, c'est des rhétoriques que j'ai voulu montrer quand même pour dire c'est spontané, c'est naturel. En fait, non, c'est complètement acquis et acculturé, on pourrait presque. Enfin, c'est devenu une seconde nature, ou alors une seconde nature, mais ça serait un peu jouer sur les mots. Mais
oui, là, ça devient difficile parce qu'on voit toujours. Enfin, on sent que les marges se chevauchent, et finalement, c'est plus trop de quoi on parle. Enfin, moi, j'ai l'impression.
C'est plutôt.
J'ai l'impression que les marges, c'est le signifiant, se chevauchent,
oui.
Et finalement, c'est plus trop de quoi on parle. Hein, c'est...
Oui, 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 mais cette... C'est vrai, oui. Mais peut-être que ces grandes catégories, donc instinct, intelligence, elles sont justement... enfin, c'est ce que je voulais un petit peu aussi montrer, c'est que la frontière est floue et c'est chaque scientifique la redéfinit un petit peu à sa manière. De même que Lorenz, pour citer celui qui donc se prétend, Konrad Lorenz, hein, étudier les instincts, il étudie les animaux dans son aussi dans son domicile. Ces oies qui sont là dans son jardin ou chez lui, et il dit c'est un comportement stéréotypé de l'oie que j'étudie, hein, donc un comportement inné. Donc sa définition du naturel, elle est aussi. Il faut bien voir il faut voir précisément ce qu'il entend par naturel. C'est une catégorie trop forte pour ne pas chercher à voir derrière ce qui s'y cache. Donc,
est-ce que la théorie de Haeckel a connu des développements ultérieurs, je dirais plus élaborés en quelque sorte? Vous savez pas si. Oui. Parce qu'elle me paraît intéressante, c'est pour ça que je demande.
Oui, cette idée de la récapitulation, ben, elle est effectivement très séduisante et très elle se veut universelle et très.
Englobante.
Oui, englobante, oui. Et correspond à cette idée des archétypes aussi, c'est toute la philosophie naturelle allemande, donc qu'elle est encore des. Je sais pas si on peut encore. Chercher ces grands plans d'organisation du vivant, ces grands plans de développement, c'est une bonne question, mais j'aurais du mal à y répondre. C'est vrai que. C'est une question pour Stéphane Schmitt, peut-être, qui est spécialiste de cette question. Avec,
Bon, donc on va finir sur cette belle question. Moi, je voulais t'en poser une, mais bon, c'est la fin. C'est-à-dire, de toute façon, on organisera des journées d'études hein, sur l'homme et l'animal, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je me demandais à partir de quel moment on pense la souffrance animale. Hein. Là, tu n'en as absolument pas parlé, mais c'est normal parce que c'est de l'expérimentation, c'est balisé, mais bon, quid de la souffrance de l'animal. Voilà. Donc, mais ça, on en reparlera, Marion.
Oui, 19e siècle, oui.
Oui.
Enfin, voilà. C'est là qu'il y a une prise de conscience importante.
Merci à tous. Je vous dis au 10 février, c'est ça, Yannick?
Oui.
Voilà pour la conférence. On termine une conférence sur les femmes et les sciences de l'homme. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus aussi, bien entendu. Voilà, merci à tous. Bonsoir.